Bon, est-ce que les auditeurs et auditrices, vous avez deviné de quoi on va parler aujourd'hui normalement? C'est un sujet qui plaît beaucoup aux initiés, en tout cas. Ceux qui ont certaines initiations, une petite connaissance en spiritualité musulmane, lorsqu'ils entendent parler de Ibn Arabi directement, ils...
C'est parfois les deux, hein. Ibn Arabi, souvent, il suscite ou de l'admiration, ou au contraire, énormément de méfiance, hein.
Ouais, la méfiance.
Peu, ça dépend un peu du public et de ce qu'on a entendu de lui. Mais pour moi, ça en dit long. Généralement, les figures comme ça, surtout les figures intellectuelles, qui sont très clivantes, hein, les gens qui ont ou des admirateurs ou des adversaires déclarés, généralement, c'est que leur pensée est très intéressante. C'est vraiment le cas dans la discussion.
Bah, en tout cas, chers auditeurs et auditrices, avant de commencer, j'aimerais juste faire quelques rappels. Premièrement, n'hésitez pas à interagir, à poser des questions, à faire vos remarques. Deuxième chose, sachez que ces émissions qu'on fait, elles sont toutes présentes sur le site Art d'Orient, d'accord ? On a fait une émission vendredi dernier avec Grégory sur l'islam et l'écologie, qui est disponible sur le site artdorient.com. Et aussi, si vous avez des domaines d'expertise ou des domaines des passions, des expériences, c'est possible de venir les partager. Justement, c'est ça l'idée en fait, c'est que les gens qui suivent Art d'Orient viennent partager naturellement, librement. Je le dis souvent, on prépare pas. Par exemple, aujourd'hui, on n'a rien préparé. C'est vraiment, on arrive, on fait ça en freestyle. La personne vient et puis elle présente un peu son univers, ce qu'elle a à partager, et on apprend tous comme ça. Et c'est vraiment un partage libre. Et je trouve que ce format il plaît beaucoup. Et justement, la semaine dernière, on a fait une belle conférence à ce sujet, l'islam et l'écologie. C'était magnifique. C'était super. C'était tranquille. Ouais. Et puis aujourd'hui, bah, justement, on est avec Grégory Vandamme, qui nous vient de Belgique, qui est spécialisé en mystique musulmane, en sciences des religions, en histoire des religions. Et notamment spécialisé, en Ibn Arabi. Est-ce que tu peux nous dire, Grégory, de quelle manière tu as abordé Ibn Arabi dans tes recherches?
Dans mon parcours, mais en fait, je l'ai pas choisi. C'est-à-dire que je me rappelle très bien la première fois que j'ai lu un texte d'Ibn Arabi, c'était en français à l'époque, il y a très longtemps. J'étais au Maroc dans un train. J'avais pris un livre que j'avais acheté avant le voyage et je comprenais rien, mais vraiment rien. Ça avait l'air vraiment extrêmement intéressant, mais je comprenais pas du tout. Voilà, vraiment, le livre m'est très vite tombé des mains. Et puis après, j'ai repris des études des années plus tard, en sciences des religions notamment. Et lorsque j'ai dû faire un mémoire de master, j'ai été voir un professeur à mon université qui est une spécialiste de la pensée islamique. Et lorsque je lui ai dit que je voulais faire un mémoire sur le soufisme, et qu'elle m'a demandé quels auteurs j'avais en tête, etc. J'ai parlé de mes lectures de l'époque, qui étaient des auteurs plus, on va dire, plus simples, hein, plus simples d'accès, pour mon mémoire de master. Et donc, celle que je voulais qui soit ma directrice, hein, qui était de loin la plus qualifiée dans l'université, et qui avait travaillé sur l'héritage plutôt d'Ibn Arabi, ses commentateurs et son utilisation dans la philosophie plus tardive, notamment dans la philosophie iranienne, m'a en gros un peu obligé à choisir Ibn Arabi. Et elle m'a donné un argument qui était très fort à l'époque et qui est très juste, que j'ai vérifié depuis. Elle a dit, de toute façon, quoi que vous vouliez étudier dans le soufisme, travailler Ibn Arabi, ça vous permettra de comprendre n'importe quel auteur de soufisme. Parce qu'il est tellement synthétique, profond et compliqué, à la fois que il vous ouvrira toutes les portes de la littérature soufie. Et donc, je l'ai vérifié ça par la suite, c'est tout à fait vrai. Et donc voilà. Et après, ça a été 2 ans du coup très 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 dur, beaucoup beaucoup de travail, beaucoup beaucoup de lectures avant de commencer petit à petit à rentrer, on va dire, dans sa pensée et à en saisir les articulations.
D'accord.
Donc c'est pas un choix qui est venu de moi en fait. Hein.
Voilà. C'est l'histoire, c'est ça.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis après, voilà, je me suis tellement pris au jeu, et puis j'ai découvert que sa pensée était tellement riche que j'ai entamé une thèse de doctorat sur sa pensée. Et donc voilà, depuis, je fréquente Ibn Arabi assez, assez souvent, on va dire.
D'accord. Bah, aujourd'hui, on va essayer de le fréquenter aussi, de la même manière, justement. Est-ce que tu pourrais commencer, bon, librement, hein, comme j'ai dit, on n'a pas forcément préparé, doucement de nous présenter qui était Ibn Arabi, son époque, quels ont été les débuts de sa vie, et ensuite doucement rentrer dans sa pensée. D'accord. On t'écoute.
Alors, donc Ibn Arabi est né en Andalousie. Il est né dans la ville de Murcia, qui est au sud-est de l'Andalousie, à la fin du XIIe siècle. Et donc, en gros, on peut dire qu'il est né dans l'apogée de l'Andalousie musulmane, juste avant qu'il y ait un déclin à la fois politique et même intellectuel, peut-être. Et il est né, ça c'est très important de le comprendre, il est né dans une famille très aristocratique. Donc, dans une famille qui était très proche du pouvoir dans la ville de Murcia, puis après, ensuite, très vite, je pense, lorsqu'il avait presque même un an ou deux, ils ont été à Séville. Et là, son père travaillait pour le pouvoir almohade. Donc, c'était vraiment une famille de l'élite, la grande élite aristocratique de l'Andalousie. C'est-à-dire qu'Ibn Arabi a été élevé, du coup, comme tous les jeunes de cette élite. C'est-à-dire qu'il a été élevé dans les arts intellectuels, mais aussi les arts de la chevalerie et des choses comme ça. D'accord. Et alors, là où c'est très intéressant, on ne sait pas très bien à quel âge il avait, parce qu'il est assez flou, il ne donne pas de date très précise, mais en tout cas, on sait que à la fin de son adolescence, il a une crise spirituelle, en fait. On sait qu'il a une éducation religieuse avant ça, comme tous les jeunes de cette élite, en fait, hein. On sait notamment que dans cette éducation, parmi ses précepteurs, il a des gens du soufisme, donc il y a accès, mais un peu comme tout le monde y avait accès à l'époque, c'est un peu l'islam habituel et commun de tout le monde. Et puis, il raconte, nommément, qu'un jour, il se trouve dans une assemblée dans laquelle ils écoutent de la musique et dans laquelle il dit qu'il y a des coupes de vin qui tournent. Il dit pas si lui avait l'habitude d'en boire, mais il dit qu'il y en avait, et que lorsque quelqu'un lui présente une coupe de vin, il entend une voix qui lui dit « Oh Mohammed, il s'appelait Mohammed, oh Mohammed, est-ce pour cela que tu as été créé ?» Et alors il dit qu'il a vraiment un sentiment comme ça de terreur et de confusion, et qu'il se lève, qu'il sort de l'établissement où ils étaient, et qu'il y a dehors qu'il rencontre sur la route un berger, hein, juste devant l'établissement, et qu'il échange ses vêtements avec lui. Et alors, il part avec les vêtements du berger, on est en pleine nuit, hein, et il trouve à la sortie de la ville un cimetière abandonné, dans lequel il y a des constructions en ruine, et il rentre dans une construction en ruine et s'assied là en méditation. Et on ne sait pas très bien la durée, parce qu'il y a plusieurs informations différentes, mais il est resté un certain temps là, en fait, en méditation et en adoration. Et dit-il, c'est là qu'il a reçu toutes ses sciences. Donc il nous dit ensuite qu'il a eu une espèce de dévoilement du cœur, on va dire d'expérience spirituelle très forte, qu'il a eu des visions aussi, on va y revenir, et qu'ensuite tout le reste de sa vie ne va être qu'une manière de mettre tout ça en pratique, en fait, et de confirmer cela, notamment, il a passé toute sa vie en voyage, hein. On va aussi peut-être parler de ça. Yeah. Oui, c'est ça, exactement, toute sa vie en voyage et surtout une vie de pauvreté, c'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, il n'a plus rien possédé, il a renié son héritage, donc il était fils d'une famille très très riche, il a officiellement dit qu'il reniait son héritage, et donc il est parti sur toutes les routes, surtout du Maghreb et de l'Andalousie au début, et puis ensuite vers l'Orient. Il a séjourné plusieurs fois à la Mecque, il a séjourné jusqu'à Bagdad en Anatolie, aussi en Turquie, etc. Et puis il s'est installé à la toute fin de sa vie à Damas, où il est mort et où il est enterré aujourd'hui. Et donc durant toute cette vie, en fait, il a eu des disciples, il a fréquenté des grands maîtres de l'époque, et donc ça a vraiment été une vie de science, de dévotion et d'écriture, du coup, parce que il est vraiment à l'échelle de l'humanité, hein, pas seulement de la culture islamique, il est un des auteurs les plus prolifiques de l'histoire. Il a, aujourd'hui, les livres dont on est sûr qu'il les a écrits et dont on a des manuscrits, il y en a plus d'une centaine. Et quand je dis plus d'une centaine, ça va de certaines épîtres qui font quelques pages à des livres qui font des milliers et des milliers de pages. Et alors c'est assez fou, parce qu'avec les spécialistes on se pose souvent cette question, quelqu'un qui a passé sa vie en voyage, parce qu'on sait où il était, à quelle date, etc. On a beaucoup d'informations là-dessus. Donc, il passait sa vie en voyage, donc en voyage à l'époque, c'était pas très confortable, ça prenait beaucoup de temps, de l'énergie, et il a écrit autant. Donc, comment est-ce qu'il a fait? En fait, il nous le dit, hein, que tout ce qu'il écrit vient de cette intuition fondamentale qu'il a eue étant jeune. Et non pas donc ce n'est pas une écriture qui est le fruit de recherche intellectuelle, de lecture de livres, etc. De temps en temps, ça lui arrive on lui présente un livre, il le lit, il le commente, mais tout ce qu'il écrit, nous dit-il, c'est vraiment par inspiration. Et c'est ça qui lui a permis d'écrire autant et sur autant de sujets avec une maîtrise vraiment sans égale.
En fin de compte, quand il a reçu comme tu dis, cette inspiration, en fait, c'était comme la graine, c'est comme le déclic qu'il a eu, c'est comme un déclic spirituel qu'il a eu. Mais après, est-ce que sa vie, il l'a dévoué à la spiritualité, ou alors quand même, il est resté aussi dans les sciences, on va dire, exotériques?
Non, alors, oui, c'est comme tous les gens du soufisme, ça a toujours été un équilibre entre les deux. Maintenant, la seule science qu'il a véritablement continué, on va dire, à étudier, à parfaire, c'est la science du hadith. Il s'est jamais vraiment intéressé au kalam, hein. Donc, c'est-à-dire que parce que toute sa pensée est une pensée très philosophique, on va dire, très spirituelle, et donc qui adresse toutes des questions théologiques. Donc, il connaît, en fait, et très souvent, en fait, on voit que ça ne l'intéresse pas, il va dire, oui, bon, voilà, les Ash'arites disent ça, les Mu'tazilites disent ça, et en fait, de temps en temps, il va dire que les uns ont raison, que les autres ont tort, mais il va très souvent les renvoyer dos à dos, en fait, et proposer une vision beaucoup plus synthétique des grandes questions théologiques et spirituelles de l'islam. Et alors, en fiqh, même chose, il va...
En droit musulman,
il va aussi, de la même manière, on voit qu'il a une connaissance très profonde, mais il ne va jamais produire un véritable ouvrage de droit, ça ne l'intéresse pas, en fait, parce que lui, il a une vision du droit, justement, qui est assez simple, et que je pourrais résumer comme ça. Il va dire à ses disciples, si vous voulez suivre ma voie, vous devez choisir dans les règles de droit ce qu'il y a de plus dur pour vous, pour vous mettre justement dans le cheminement spirituel et traverser la religion comme une épreuve, mais une épreuve bénéfique. Et par contre, pour les autres, vous devez choisir tout ce qu'il y a de plus simple. Donc vous devez appliquer les solutions les plus universelles, les plus faciles pour les autres, mais pour vous, chercher vraiment
casser l'ego. Pour casser l'ego.
Voilà, pour casser l'ego, exactement, et pour vraiment chercher à atteindre une piété pure. Ça, c'est sa règle, on va dire, sa règle de base. Et donc, il va dire notamment, au niveau de détails de droit, il va dire qu'il est permis pour les autres, notamment, d'aller chercher dans toutes les écoles tout avis qui a été reconnu valable à une époque doit toujours être reconnu valable. Et lui, il critique les savants qui vont cloisonner, on va dire, un peu trop les écoles. En gros, on peut parler en détail de ça, mais c'est ça sa position.
Et au niveau, tu parlais de ses disciples, il a eu ses disciples à partir de quand? C'est-à-dire, est-ce qu'il a eu longtemps une expérience spirituelle pour ensuite avoir des disciples, ou il les a eu en même temps?
Alors, c'est là qu'il est vraiment unique, sans doute, dans l'histoire de Tassou. Enfin, il y a d'autres cas comme lui, mais lui, pas de cette ampleur. C'est qu'en fait, très jeune, cette intuition, visiblement, est vraiment profonde et lui donne des connaissances et une articulation de ses connaissances véritablement virtuoses. Et notamment, on connaît le fameux épisode avec Averroès. Donc Averroès était un ami de son père. Comme tous les deux travaillaient à la cour des dirigeant Almohad, Averroès entend parler de ce jeune garçon qui a visiblement des connaissances absolument éblouissantes et qui lui sont venues par inspiration. Il dit, mais lui qui est donc Averroès, grand philosophe, grand médecin, très rationaliste, etc., et grand juriste aussi, hein, juriste de l'islam, se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc il demande à son père, envoie-le-moi, je veux me confronter à ça. Et donc l'épisode est très célèbre, c'est Ibn Arabi qui le raconte, en tout cas, comme ça. Il dit, j'arrive chez Averroès, et lorsqu'il m'ouvre la porte, il me regarde, il me dit rien, il me dit juste oui. Et il dit, moi je comprends ce qu'il essaye de me dire, et donc je lui réponds oui. Et je vois qu'il est très heureux de ma réponse. Mais je vois qu'en fait, dans le fait qu'il se réjouit de ma réponse, il y a quelque chose de pas juste. Et alors je lui dis aussi non. Et alors là, Averroès est troublé et pose demande à Ibn Arabi, lui dit est-ce que les vérités auxquelles vous, les gens de l'inspiration divine, vous arrivez sont les mêmes auxquelles nous, les gens de la raison, arrivons? Et Ibn Arabi lui dit oui et non. Et entre le oui et le non, les nuques se détachent des corps et les esprits s'envolent en dehors de leur matière. Et il dit, Averroès, quand il a entendu ça, a été tellement touché qu'il est devenu tout blanc et qu'il a dit la fameuse parole musulmane, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu. C'est souvent une parole que les musulmans disent pour se protéger, on va dire, de choses dont ils ont peur. Et donc ça montre que Ibn Arabi, qui avait peut-être, on ne sait pas vraiment bien estimé, mais il avait genre quelque chose comme 17 ans peut-être, ou peut-être même 15, il était très très jeune, tient tête à un des qu'on considérait comme un des plus grands esprits de son époque. Et donc ça donne une idée du style du personnage. Et en fait, tout le reste de sa vie, il a écrit plusieurs ouvrages qui détaillent tous les maîtres qu'il a fréquentés. Et en fait, dès le début, il a une espèce de rapport ambivalent avec ses maîtres, où en fait il se pose bien comme disciple, mais il a des connaissances parfois qui dépassent sur certains sujets ceux de ses maîtres. Et donc, ses maîtres le reconnaissent aussi. Et donc, il y a vraiment une espèce de relation presque de réciprocité entre eux, qui est très très belle. Et donc, lui va avoir ça notamment avec les tout grands maîtres de l'époque, où il va vraiment les considérer lui-même comme ses maîtres. Il les appelle mon maître, etc. Mais eux-mêmes vont le considérer lui comme un maître. Donc, il y a vraiment une espèce de dialectique comme ça qui se met en place.
D'accord. Et Ibn Arabi, il est souvent surnommé Sheikh al-Akbar, le plus grand Sheikh, le plus grand des Sheikhs. Pourquoi ? Parce que on sait que dans la tradition islamique, on a eu beaucoup de savants et on a eu beaucoup de sommités. Hein, mais pourquoi Ibn Arabi, on l'a appelé Sheikh al-Akbar ?
Alors, évidemment, c'est une appellation qui est venue plus tardivement, assez tardivement même, et par ses disciples, en tout cas ses partisans, on va dire, les gens qui le considéraient, qui le mettaient au centre de leur vie spirituelle et intellectuelle. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il l'appelle comme ça? Parce que dans sa pensée, comme disait un grand spécialiste qui nous a quitté tout très récemment, Sidi Ali Chodkiewicz, Ibn Arabi donne l'impression d'avoir réponse à tout. C'est-à-dire que il propose une pensée, des clés de compréhension de la religion, mais pas seulement, en fait, hein, de la pensée, de l'expérience humaine et du réel, hein, parce qu'il a vraiment une pensée qui a une dimension philosophique très grande, et qui peuvent valoir en dehors même du cadre purement islamique. Et donc, il propose vraiment quelque chose qui a une universalité, et une profondeur qu'on ne retrouve pas souvent chez les autres penseurs de l'islam, même chez les penseurs qui se sont réclamés dans sa lignée, dans son héritage après lui, qui ont tous d'une certaine manière coloré, on va dire, Ibn Arabi. Comme le disait un grand spécialiste avec qui j'ai étudié, en fait, quand on lit Ibn Arabi, on peut le lire avec plein de lunettes différentes. On peut le lire comme un... Alors, si on le lit avec des lunettes de philosophe, on va y voir de la philosophie partout. Si on le lit avec des lunettes de soufi, on va voir du pur soufisme partout. Si on le lit avec des lunettes de la science religieuse classique, on va voir, oui, voilà, c'est un savant religieux qui commente énormément le Coran. Hein, c'est surtout le Coran qui est le centre de sa pensée, de ses développements, mais aussi, comme je disais, hein, qui parle de fiqh, qui parle de théologie, qui parle d'un tas de choses. Donc ça dépend ce qu'on vient y chercher, en fait, tout simplement.
Et comment justement il voyait, parce que tu parles du fiqh, de cet équilibre qu'il avait, il est souvent aussi vu par certains comme un peu peut-être controversé, il est peut-être pour certains sorti du cadre avec toutes ces histoires de visions et de choses qui sortent de la métaphysique. Comment lui, c'était quoi sa pensée par rapport à ça ? C'est-à-dire comment lui, dans sa spiritualité, il alliait cet équilibre ?
Ah oui, non. Donc non seulement, comme je le disais tout à l'heure, il cherchait vraiment à être profondément ancré dans le droit islamique, on va dire. Mais même, il mettait un accent sans doute plus fort que d'autres penseurs de son époque là-dessus. C'est-à-dire que pour lui, il a cette fameuse formule, hein, la charia, donc ce qu'on appelle au sens très très large, les règles de vie qui sont un peu comme les lois naturelles des relations humaines et des relations entre l'homme et Dieu. Il disait, c'est la réalité ultime. Et la réalité ultime, ce n'est que ça. C'est-à-dire que ce cadre de vie que donne l'islam dans lequel il était, il ne cherche pas à le remettre en question. Il cherche en fait à l'approfondir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de prendre du recul et de remettre les choses en question de l'extérieur, il dit mais en fait c'est tellement infini à l'intérieur qu'on peut nager là-dedans et chacun peut y trouver sa place. Il n'y a pas besoin de remettre les limites en question. Parce que c'est dans la profondeur qu'on va trouver la perspective et non pas dans un pseudo-recul qui pour lui en fait est un enfermement. Au plus on va essayer de prendre du recul sur les choses, au plus on va s'enfermer dans notre perspective individuelle. Alors que lui, toute sa quête, c'est une quête d'universalité, c'est une quête de dépassement des limites justement de l'ego et de la perspective individuelle. Et donc cette perspective universelle, on va la trouver en plongeant dans le texte coranique notamment, en plongeant dans le hadith aussi, mais et donc dans la pratique de l'islam. Il va accorder énormément d'attention à montrer tous les sens cachés qu'il y a dans chaque geste rituel de l'islam, que ce soit des choses vraiment liées aux prières, mais aussi dans des choses plus prosaïques, on va dire, même si ça il faut le dire quand même, il s'est en matière de droit islamique, il s'est surtout attardé sur le droit des actes rituels. Sur le reste, il a dit des choses, mais beaucoup moins. Mais donc, c'est vraiment le fait de donner du sens à chaque geste de la vie, le fait de donner du sens à toutes les dimensions de l'expérience humaine, hein, même parfois des choses qui sont dans le droit musulman sont par définition en dehors du droit. L'amour, il n'y a pas de règle pour l'amour, mais il va par exemple explorer cela pour montrer tous les sens spirituels et métaphysiques qu'il y a dans la relation homme-femme, par exemple, des choses comme ça.
D'accord. Et justement, par rapport à cette question de l'amour, c'est exactement la question que je voulais te poser. On sait tous, pour ceux qui sont un peu initiés, que Ibn Arabi a énormément écrit et a fait couler beaucoup d'encre au sujet de l'amour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de comment lui a traité ce sujet-là, à la fois l'amour, comme tu disais, avec les créatures, la relation horizontale, et aussi l'amour divin.
Alors, en fait, pour comprendre ce qu'il entend par l'amour, il faut comprendre le lien qui unit Dieu à l'homme. En fait, là, on va rentrer. J'essaie de pas rentrer dans un vocabulaire trop technique. Mais en gros, Dieu a un rapport avec toute sa création. Il a un rapport qu'on traduit très mal en français parce qu'on n'a pas de terme en fait, tout simplement. Mais ce qu'on appelle la rahma, hein, la rahma qu'on traduit souvent par la miséricorde en français. Étymologiquement, rahim, c'est la matrice. Hein. C'est la matrice de la mère dans laquelle l'embryon de l'enfant se développe. Et donc, lorsque Dieu répète très souvent, se décrit lui-même, et notamment au début de chaque sourate coranique, Ar-Rahman Ar-Rahim, hein, qui sont en fait deux formes de ce même terme, une forme absolue et une forme intense, on va dire. Donc il est le tout miséricordieux, celui qui n'est que miséricorde, en fait il n'est que matrice. Et il est le très miséricordieux. Il est celui qui est en détail la matrice pour tout le monde. Quoi. Et donc en fait, ce lien pour lui, il est vraiment fondamental parce que c'est ce qu'on va après appeler après lui, hein, la fameuse Wahdat al-Wujud. Le fait qu'il y a un lien entre l'existence de l'homme et l'existence de Dieu, il y a un lien inséparable. En fait. Il n'y a pas cette idée qu'on peut avoir parfois de la création comme Dieu qui produit quelque chose qui sort de lui, puis qui a une espèce d'existence en dehors de lui. Mais pour lui, ça, c'est aller contre l'idée du tawhid, de l'unicité divine, parce qu'il ne peut rien avoir à part Dieu, hein, à proprement parler. Et donc, Dieu entretient avec sa création ce lien de matrice, ce lien dans lequel on est tous reliés par cela. C'est pour ça que, notamment dans le Coran, la Rahma, l'idée, cette idée de miséricorde, là, qui est plutôt donc cette idée de matrice, elle est toujours dite universelle. C'est quelque chose que la miséricorde de Dieu, dans le sens ici de son lien avec sa création, elle vaut pour tous et pour chaque chose de la création. Et dans cette matrice, on va dire, le lien qui unit chaque chose à Dieu et le lien qui unit les choses entre elles, c'est l'amour. Et pourquoi c'est l'amour? Notamment parce que en arabe, le mahabba, ça vient du terme habba qui veut dire la graine. Et donc il va dire, l'amour, c'est cette graine qui, dans la matrice, comme l'embryon humain grandit et forme un être, eh ben, c'est la graine qui grandit dans la matrice de la miséricorde divine. Et donc nous sommes tous, si il n'y a que Dieu qui est Rahman Rahim, hein, qui a ce lien de miséricorde avec nous, qui a ce lien de matrice avec nous, mais donc il est celui qui a ce lien avec nous tous de la même manière, mais chacun entre nous, on participe de cela, et donc en fait ce lien qui nous rattache tous à lui, c'est l'amour. Et donc là où le lien de miséricorde n'est que dans un sens, il n'y a que Dieu qui a cette miséricorde, ce lien d'amour il est réciproque en fait, parce qu'il nous relie à Dieu dans les deux sens. Et donc il nous relie tous à Dieu, il nous relie entre nous. Et donc l'amour entre un homme et une femme n'est qu'une expression particulière en fait de cet amour qui est beaucoup plus universel et qui relie chaque élément de la création.
Et alors justement tu parlais... Ouais, vas-y.
Non, juste parce que tu disais au début, oui, il a été, il y a eu une polémique là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser un langage, du coup, hein, mais comme beaucoup d'autres soufis, il va utiliser, du coup, ce langage de l'amour pour décrire des réalités théologiques et métaphysiques. Et il y a un épisode fameux de sa vie dans lequel il a composé un poème, enfin, un long poème, un texte un texte rimé, justement, et vraiment sous la forme d'un poème d'amour qui lui aurait été inspiré par la fille d'un ami à lui, d'un maître spirituel, qu'il a rencontré à la Mecque, et en la rencontrant, il dit elle était tellement parfaite à la fois de beauté et d'intelligence, parce qu'elle l'a corrigé sur des choses, etc., qu'elle lui a inspiré ce poème. Et d'autres savants de l'époque ont un peu rigolé de lui en disant « Ah oui, c'est quoi ce grand, soi-disant, ce grand cher, ce grand maître spirituel qui tombe amoureux et qui nous écrit des poèmes d'amour, quoi, à quoi ça rime ?» Et alors lui, lorsque ses disciples lui ont raconté ça, et qu'ils lui ont dit « Mais comment tu vas répondre ?» Il dit « Mais c'est très simple, je vais juste leur expliquer, ils n'ont pas compris. » Et donc en fait, il va dire « C'est vous qui êtes voilé et vous n'arrivez même pas à comprendre des choses aussi simples. » Et donc en fait, il va juste commenter son poème, vraiment vers par vers, mot par mot, et c'est vraiment c'est une très très grande profondeur. C'est un ouvrage qui s'appelle le Tarjouman et la Chouar, l'interprète des désirs. Donc c'est lui qui se fait le traducteur, autrement dit, oui, l'interprète de l'amour, et qui explique le sens réel et profond de l'amour dans toutes ses dimensions.
D'accord. C'est intéressant ça. Je note Tarjouman et la Chouar. les internautes, les auditeurs, auditrices, notez si vous êtes arabophone. Il est traduit ce
Oui, il a été traduit par Maurice Glotton. Donc, sous ce titre-là, L'interprète des désirs. Je pense que chez c'est un gros, un livre assez volumineux, parce que du coup, il y a les poèmes et le commentaire.
D'accord. Juste, tu parlais de Wahdat al-Wujud, l'unicité. Il y a beaucoup de débat par rapport à ça. Certains vont penser qu'il y a une sorte de fusion entre le créateur et la création, c'est-à-dire l'homme, on va dire, et Dieu. Est-ce que c'est une mauvaise interprétation ou il y a fusion?
Alors non, le problème, c'est qu'on rentre dans des questions qui, pour devenir précises, doivent utiliser un vocabulaire philosophique, etc. Mais je vais essayer de l'expliquer très simplement. En fait, il ne peut pas y avoir fusion entre deux choses qui sont différentes par nature. Fusion, ça voudrait dire que ces deux choses ne sont qu'une seule et même chose. En fait, ce dont il parle, c'est pas lui qui va utiliser le terme à proprement parler de Wahdat al-Wujud, c'est ses disciples plus tard. Mais ce à quoi ça renvoie, c'est le fait que pour Ibn Arabi, l'être, le fait d'exister, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire que le fait d'être, pour nous ou pour Dieu, ça ne peut pas être différent. Sinon, on rentrerait dans quelque chose qui deviendrait absolument... tu vois, on saurait plus qu'est-ce qu'on dit quand on dit Dieu existe, si on ne sait même pas ce que ça veut dire exister, tu vois. Donc pour lui, en fait, l'être, il n'y a qu'un seul être. La différence, c'est que Dieu, lui, il est pur être. Il n'est qu'être. Et nous, nous sommes aussi toute une sorte de choses que nous ne sommes pas. C'est-à-dire que ben, on a un début et une fin, on est limité dans l'espace, on a un tas de définitions qui en fait sont des limites de notre être. Et qui sont en fait, pour parler un peu un langage philosophique, qui sont toute la part de non-être qui nous définit. Alors que Dieu, lui, il est pur être. Mais l'être reste un. Il n'y a pas deux êtres. Il n'y a pas l'être de Dieu et l'être de la création. L'être, c'est l'être un. Sauf que lui est un être indéfini, illimité, infini, inconditionné, et que la création est l'être lorsqu'il est conditionné, défini, etc. Donc c'est cela qui est la base philosophique, on va dire, de cette compréhension, et qui après, lorsqu'on va venir volontairement, parce qu'en fait les attaques sont venues de très peu de savants, on pourra y revenir après d'ailleurs, ils sont venus volontairement polémiquer sur certaines choses. Lorsqu'on va essayer de poser des questions insidieuses, ben on va commencer à essayer de dire oui, mais alors si l'être est un, ça veut dire que tu as en toi une substance divine. Mais ça renvoie non seulement à des choses qui sont dites dans le Coran, lorsque Dieu dit dans le Coran qu'il a un souffle de son esprit dans Adam par exemple, ou dans Jésus aussi, donc il y a bien cette participation d'une réalité divine à la réalité humaine, entre autres. Et si tu veux, la polémique pourrait se limiter à ceux qui vont l'attaquer vont dire oui, mais tu ne peux pas tenir une seule et même chose pour Dieu, pour sa création. Tu dois séparer tout. Et lui va dire, si tu sépares tout, tu fais deux choses et donc tu n'es plus dans l'unicité divine. Tu dis qu'il y a autre chose à côté de Dieu. Et donc, c'est un débat, ça c'est pour le caricaturer, quoi. Et ce débat va sans fin avec plein de détails, plein de subtilités, mais c'est ça le cœur du débat. Lui, il veut tenir l'unicité divine, c'est sa compréhension, mais c'est pas, ça vient pas que de lui, hein, d'ailleurs, c'est dans le soufisme le plus ancien, tu trouves ça formulé très clairement, déjà chez Junaïd, par exemple, ou des soufis du 10e siècle, fin 9e siècle.
D'accord. Et justement, tu parles des autres maîtres soufis et des autres spécialistes, ou on va dire experts, des maîtres soufis. Comment Ibn Arabi il a influencé ce qu'on va appeler les tariqas, les écoles soufis? Comment va influencer Ibn Arabi dans sa pensée?
Alors ça c'est une excellente question. En fait, Ibn Arabi n'a pas fondé d'école. Donc il a eu des disciples, de vrais disciples, hein, dont plusieurs sont très célèbres. Il y a, sans doute le plus célèbre est en fait son fils, on va dire son beau-fils, hein, c'est-à-dire qu'il a épousé la veuve d'un ami à lui, et donc a pris son fils sous son aile, et qui s'appelle Sadreddin Kounawi, qui était originaire de Turquie, de l'Anatolie, de Konya. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, très intéressant, je l'avais teasé à la fin de l'émission la semaine dernière, mais en fait, donc Kounawi, le beau-fils d'Ibn Arabi, qui a un petit peu pris la suite des enseignements à la mort de son beau-père, même s'il y a eu d'autres disciples, hein, plus âgés que lui, entre autres, etc. Mais lui a un peu pris, on va dire, les rênes du cercle, et en fait, il est retourné vivre à Konya, donc à sa ville d'origine, où il est enterré d'ailleurs, et il était donc, lorsqu'il était à Konya, il fréquentait Jalaluddin Rumi, l'autre grand, très grand maître du soufisme. Et en fait, Rumi, dans son testament, avait demandé que ce soit Kounawi qui prie la salat janaza sur son cercueil, sur son linceul plutôt. Et donc il y a un lien là, il y a des légendes qui disent qu'Ibn Arabi et Rumi se sont rencontrés, mais ça tient pas du tout historiquement. Ça marche pas du tout, ils se sont sans doute jamais rencontrés. Mais par contre, oui, il y a un véritable lien par cette personne de Kounawi. Et donc, malgré qu'il avait des disciples et qu'il y a eu un cercle que Kunawi a enseigné à d'autres personnes qui ont enseigné à d'autres personnes, etc., il n'a jamais fondé, à proprement parler, de Tariqa. Pourquoi ? Parce que aussi au niveau historique, c'est le moment justement où les écoles soufis se forment. Lui-même va à Bagdad, il a une très très grande estime pour Abdelkader Jilani, hein, considéré souvent comme la première, même si c'est pas vrai, tout à fait vrai, mais la plus ancienne de toutes les voies du soufisme. Et donc, il connaît déjà ce monde-là. Lui, il vient du monde de l'Occident, du Maghreb et de l'Andalousie, où il n'y a pas encore de confrérie. Hein. Les confréries naissent en Irak, en Syrie, et puis en Égypte, et puis en Turquie, et puis se répandent dans tout le monde musulman. Mais donc, il est à la charnière, et lui, clairement, visiblement, volontairement, ne veut pas créer l'école à proprement parler, mais en fait, il va influencer ces écoles durablement. Pourquoi ? Parce que ses écrits vont servir, en fait, d'encyclopédie du soufisme, tout simplement, et même au niveau du vocabulaire technique, au niveau des doctrines, il va, en fait, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus dans mes travaux, son œuvre, en fait, est une œuvre de synthèse et d'approfondissement de tout ce qui se trouvait en germe dans le soufisme le plus ancien. Il y a très, 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 très peu de points qui sont vraiment nouveaux, en fait, au final. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des choses qui existent chez les soufis de toute première génération et qu'il va les développer, qu'il va voilà, les formuler, mais d'une manière tellement puissante, hein, et cohérente, que tout le monde après lui va se référer à lui. Et même tous les maîtres qui ne vont pas le citer parce que ils sont parfois dans des contextes où il vaut mieux ne pas le citer parce qu'il a eu une certaine image polémique à un moment, bien après sa mort, en fait, on se rend compte qu'ils le lisent, qu'ils le connaissent, etc. Et voilà, de très très grandes figures du soufisme, très souvent, il y a des petits détails qui ne trompent pas et on voit qu'en fait, ils font allusion à des choses qui se trouvent chez Ibn Arabi. Donc jusqu'à aujourd'hui, vraiment, même je peux même parler de certaines figures du soufisme contemporain qui disent à leurs disciples de ne pas trop lire Ibn Arabi, dans le sens où il ne faudrait pas chercher la spiritualité dans les livres seulement, hein, mais plutôt dans la pratique spirituelle et dans l'éducation spirituelle, mais dans leurs paroles. On va trouver parfois, mot pour mot, des phrases qui sortent des livres d'Ibn Arabi. Ils les ont bien lues.
D'accord. Et tu as juste, je voulais faire une petite parenthèse, tu as parlé de la relation qu'avait Ibn Arabi avec son beau-fils et du fait que son beau-fils aurait peut-être pris les rênes du cercle. Est-ce que dans les Talera, c'est une transmission de maître en disciple et de fils, de père en fils, ou alors ça n'a rien à voir ?
Non, ça n'a pas à voir. Ça arrive que ce soit le cas, et en fait le fait qu'il y ait cette transmission dans des familles se comprend très facilement. En fait, c'est comme dans tout art, hein, dans tout artisanat, dans tout savoir qui se transmet, justement. Ben, quelqu'un qui a grandi auprès du maître s'il a grandi auprès du maître et qu'il se trouve être un disciple et apprendre l'art de son maître, qu'il soit musicien, charpentier, il y a des chances qu'il ait une connaissance vachement profonde de l'art de son père, quoi, parce qu'il a passé toute sa vie avec son père. Et donc c'est pour ça que très souvent on a des filiations dans les familles, mais c'est pas nécessairement le cas. Il y a plein de grandes par exemple, quand on regarde des grandes tariqas les plus anciennes, celles qui ont traversé vraiment les siècles, tu as des moments où ça peut arriver et puis d'autres où ça ne l'est pas. Ça dépend vraiment des cas. C'est pas du tout une logique implacable.
D'accord. D'accord. Et par rapport à... Alors, je voudrais juste dire, les internautes, vous pouvez commenter, hein. Vous pouvez commenter, poser vos questions, il n'y a aucun souci. Grégory, tu as parlé des doctrines. Est-ce que, de la même manière que dans le droit où il y a le malikisme, le hanafisme, et dans aussi le dogme aussi, est-ce que dans la science de la spiritualité musulmane, il y a aussi des doctrines ?
Alors là, c'est compliqué. Il y a une grande parole du tasawuf que reprend Ibn Arabi, qui dit « al-tawhid wahid », donc la doctrine de l'unicité, elle est unique par définition. Maintenant, c'est sûr que il y a des points, on va dire précis, hein, de croyances, certaines choses qui sont formulées par certains, qui sont discutées par d'autres. Donc il y a des discussions d'ordre doctrinal à l'intérieur du soufisme, ça c'est certain. qui soient liées, que ce soit des questions de théologie, que ce soit des questions liées à des plutôt de croyances, par exemple, dans l'au-delà. Hein. Par exemple, sur cette question, Ibn Arabi est célèbre pour avoir défendu une croyance très intéressante sur le rapport entre l'enfer et le paradis, et qui, de manière très intéressante, est défendue par très peu de savants, mais un des savants qui l'a défendue comme lui est son plus grand opposant dans l'histoire, Ibn Taymiyyah. D'accord. Donc cette doctrine qui dit que, en fait, vu de nouveau ce rapport de miséricorde que Dieu entretient avec ses créations, in fine, tous les êtres humains vont être embrassés par la miséricorde divine. C'est-à-dire que il n'y aura personne qui aura un châtiment éternel. Ce qui est éternel, c'est le séjour, il dit, le paradis et l'enfer. Il dit le paradis et l'enfer vont durer, parce que ça c'est le Coran qui le dit. Il dit mais le châtiment, en fait, a un temps donné pour épurer les âmes. Et en fait, il dit il y aura des gens en enfer pour l'éternité, mais ces gens vivront là un état de plaisir, en fait. Il dit en fait c'est des gens qui dans leur nature ont un côté infernal, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils aiment ce côté, ils aiment par exemple la chaleur, ils aiment le conflit, c'est quelque chose qu'ils aiment, en fait. Et il dit même, il dit, si tu mettais ces gens-là au paradis, ce serait un enfer pour eux. Et donc, en fait, l'enfer va être un lieu pour eux de plaisir pour l'éternité. Et ça, c'est une doctrine très étonnante, parce qu'on entend très, très rarement ça. Il y a plusieurs savants qui l'ont tenu, hein. Lui, il tient beaucoup, mais comme je disais, Ibn Taymiyyah la tient aussi, très étonnamment. Et il apprend, d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera, mais il apprend de chez Ibn Arabi, bien sûr, hein, parce qu'Ibn Taymiyyah a beaucoup, beaucoup lu Ibn Arabi.
Ibn Taymiyyah qui est souvent repris comme étant l'ennemi de la mystique et du soufisme de son époque, alors qu'en fin de compte, on voit que Ibn Taymiyyah a des avis où il soutient même les grands maîtres de son époque.
Mais donc lui-même était soufi, hein, Ibn Taymiyyah. Donc on sait qu'il était qadiri, hein. En tout cas, on a son nom dans la liste. On a retrouvé dans les archives d'une zawiya qadiri de Damas, je pense. Donc il y a une notice de Warf où on a le nom de tous les disciples et il est dedans, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Et comme tu dis, Ibn Taymiyyah était un polémiste, il faut vraiment comprendre ça. En plus d'être un savant, c'est vraiment quelqu'un qui cherchait la bagarre, on va dire. Hein. Et c'est pour ça qu'il a été emprisonné, c'est pas pour ses idées. Il a été emprisonné parce que il cherchait la polémique et en fait il créait des troubles. Et notamment parce qu'il refusait d'accepter le fameux statu quo de l'islam. Hein, c'est-à-dire cette réalité des choses qui fait qu'il y a plusieurs avis. Ça a toujours été la position des savants depuis le début de l'islam, et accepter qu'il y ait plusieurs avis juridiques, accepter qu'il y ait plusieurs avis théologiques, qu'il y ait plusieurs façons de cheminer spirituellement, etc., ça fait partie normalement de l'islam depuis le début. Mais Ibn Taymiyyah refusait ça, et lorsqu'il venait avec un avis, il disait « Non, c'est moi qui ai raison, vous avez tous tort ». Et c'est à cause de ça qu'on l'a mis en prison, en fait. Oui, mais sur plein de choses, il a des doctrines magnifiques, inspirées du soufisme. Donc il le dit, hein, qu'il a lu pendant des années, étudié Ibn Arabi, et que vraiment, il dit notamment que c'est un des savants, je crois même, si je ne dis pas de bêtises, il dit que c'est le savant qui connaissait le mieux le Coran, qu'il n'a jamais lu. Mais un jour, on lui donne un autre livre d'Ibn Arabi très, très polémique, le livre qui a suscité la polémique, et là il a vraiment dit non, c'est pas possible, cette doctrine doit être réfutée, et donc il rentre vraiment en croisade contre Ibn Arabi. Mais c'est pas vraiment Ibn Arabi lui-même, en fait Ibn Taymiyyah est en croisade contre le soufisme qui à l'époque est vraiment islam ultra majoritaire. Et en fait, parce qu'il faut savoir que c'est l'époque des invasions mongoles, hein, et donc tout le monde musulman est en train de s'écrouler jour après jour, en fait, hein, avec la destruction de Bagdad, avec le cœur de la civilisation islamique qui est réduit en cendres. Et donc, il y a vraiment une avancée des Mongols qui semble inarrêtable. Et lui, déjà un peu comme le front d'autres penseurs salafistes ou réformistes avec la colonisation, en fait, et c'est pas pour rien qu'ils sont après beaucoup inspirés de lui. Lui va dire, ben, si on se fait envahir comme ça, si on se fait détruire comme ça, c'est parce que il y a quelque chose dans notre religion qui n'est pas bon, et que Dieu ne nous protège plus, ou Dieu veut nous punir parce que notre... Et donc il va dire, ben, c'est la faute des soufis. Puisque les soufis sont partout et qu'on se fait envahir, bah c'est que c'est de leur faute. C'est pas genre, c'est le même logiciel qu'on va avoir à la période coloniale dans certains mouvements. Et donc, il va dire que parmi ces soufis, ceux les plus dangereux sont les plus intelligents et ceux qui ont suscité le plus d'admiration pour leurs écrits. Et évidemment, Ibn Arabi en fait partie parce qu'il est... Il est à ce titre-là le plus dangereux de tous. Quoi. Et c'est pas vrai. Hein, il dit que de toute la bande, c'est ça qui est intéressant. Il dit que de tous les noms qu'il cite, il est le moins condamnable. Il le dit quand même.
D'accord.
Il reste attaché à son amour de jeunesse.
On a un éditeur qui nous demande. On dit que Ibn Arabi a été un renouveau pour l'islam de son époque. Est-ce vrai? L'islam de notre époque n'a-t-il pas besoin d'un renouveau spirituel?
Ben oui, c'est de là que vient son surnom Muhyiddin, hein, donc le revivificateur de la religion. Et ça vient d'un fameux hadith qui dit que à chaque siècle ou à chaque époque, Dieu envoie quelqu'un qui vient revivifier la religion. Et ce titre a été donné à beaucoup de grands savants de l'islam, dont Razali, dont d'autres. Et oui, certainement, à son époque, je pense que Ibn Arabi vient revivifier la religion justement par la spiritualité. Alors c'est très intéressant parce que Razali lui a fait une œuvre dans laquelle il concilie dans la forme extérieure le soufisme et les sciences religieuses, le kalam ou le droit. Hein. Il fait vraiment une œuvre de synthèse et de réconciliation des sciences exotériques. Mais si, pour ceux qui connaissent un petit peu, très souvent, Razali dit, voilà, ici je dois m'arrêter parce que on rentre dans des choses desquelles je peux pas parler, quoi. Hein, parce qu'il reste justement dans une tentative de réconciliation, et il reste dans une certaine extériorité, même de la spiritualité. Et en fait, Ibn Arabi, c'est là qu'il commence. Et certains disent, ça, ils disent, en fait, il faut comprendre la grande œuvre d'Ibn Arabi, le Futuhat, comme un commentaire de l'Ihya de Razali. C'est vraiment genre, là où Razali nous a présenté tout l'aspect extérieur, eh ben, Ibn Arabi va nous présenter tout l'aspect intérieur. Et c'est pour ça que c'est plus volumineux, parce que l'intérieur, comme on sait, est plus volumineux que l'extérieur. Et donc oui, il a vraiment... Je pense que ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il arrive à une période où le débat éternel entre la raison, la spiritualité... La tradition, dans le sens de l'imitation, ça a été vraiment un débat des premiers siècles de l'islam, hein, avec les Hanbalites, les Mu'tazilites. Est-ce qu'on utilise la raison pour interpréter? Est-ce qu'on doit juste appliquer les choses sans réfléchir? Quelle est la place accordée à la spiritualité par rapport à la loi? Toutes ces questions. Je pense que là où par exemple Razali va y répondre en mettant des limites, hein, il va vraiment poser les limites, Ibn Arabi lui va synthétiser le tout. C'est-à-dire qu'il va là où Razali a mis les limites du débat, Ibn Arabi va répondre à toutes les questions. Dans les limites du débat que Razali a, en respectant ses limites, parce qu'il est d'accord avec lui sur beaucoup de choses, hein, il le cite souvent, mais il va réussir à répondre aux questions. Et ça renvoie à ce que je disais au début de l'émission, dans le fait que souvent il va dire, oui voilà, sur telle question les Ash'arites disent ça, les Mu'tazilites disent ça, et souvent il a cette formule que j'aime beaucoup, que je trouve très drôle, il a beaucoup d'humour avec Ibn Arabi, il va dire, en fait les Ash'arites, ce que disent les Ash'arites est vrai, mais ils le disent pas pour la bonne raison, ou alors il va dire, les Mu'tazilites disent ça et ils ont raison, mais ils savent pas pourquoi ils ont raison, et des choses comme ça.
D'accord. Il y a, par rapport à l'islam de notre époque, a-t-il besoin d'un renouveau spirituel?
Ah oui, ben oui, c'est ça, je pense que vraiment, et en fait de la vie de tous les musulmans, hein, qu'ils soient de simples croyants, des grands savants, l'islam aujourd'hui, depuis un siècle en fait, hein, même peut-être plus, mais en tout cas depuis un siècle, vit la plus grande crise de son histoire. Il y a eu les invasions mongoles, il y a eu les croisades, il y a eu plein de choses, mais c'est incomparable avec ce qu'on vit aujourd'hui. Dans le sens où, lorsqu'il y avait les croisades ou les invasions mongoles, il y avait quand même encore une unité de la communauté musulmane autour de certaines pratiques, autour de certaines croyances, autour de certaines figures d'autorité spirituelle, etc. Qui, aujourd'hui, tout ça vole en éclats. Aujourd'hui, vraiment, on a vraiment un délitement du tissu de l'islam, à la fois intellectuel et social. Et donc, oui, aujourd'hui, on est vraiment dans une crise très, très profonde. Et je pense, bon, ça, c'est évidemment mon intime conviction qui est toute personnelle, parce que je passe beaucoup de temps dans ses écrits, mais je pense qu'Ibn Arabi a énormément de réponses et de solutions pour affronter les difficultés de cette époque. C'est vraiment un des grands penseurs de l'islam chez qui on peut aller puiser énormément de réponses.
Alors, il nous reste moins de 5 minutes. Juste...
Ouh là là.
Rapidement, est-ce qu'on peut parler du... Il y a un auditeur qui nous parle du sceau de la sainteté mohammedienne.
Est-il le sceau de la sainteté ? Parler du sceau de la sainteté mohammedienne en 5 minutes, ça va être très difficile. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, selon Ibn Arabi, tous les saints, hein, toutes les personnes, les... ils disent, marchent sur les pas d'un prophète. Dans le sens où les prophètes sont des réalités, ils ont des réalités, individuelles, hein, et historiques, etc. Mais ils sont aussi des réalités universelles. Et les saints participent de ces réalités. Ils ont des affinités, en fait, avec des types spirituels de ces saints. Et donc, par exemple, il y a des saints qui sont christiques, dans le sens où ils vont avoir le type de sensibilité qu'avait Sidna Aïssa, hein, Jésus. Mmh. Par exemple, et ça se voit souvent même pour ceux dont on a des traces des photos, par exemple le Cheikh Al-Alawi, très connu au 20e, qui est mort au début du 20e siècle, était clairement un saint christique, et ça se voit même physiquement. On regarde une photo du Cheikh Al-Alawi, on a l'impression de voir une peinture de Jésus, quoi. Et notamment dans le type de pratique, etc., etc. Et en fait, le sceau de la sainteté mohammedienne, c'est celui qui est sur les pas de Mohammed. Et quelle est la particularité de celui qui est sur les pas de Mohammed? C'est qu'il n'est en fait conditionné par rien. Il est totalement universel. C'est-à-dire qu'il faudrait pas le voir comme une espèce de synthèse, d'addition de tous les types prophétiques. C'est en fait le contraire, parce que le Mohammed était El Nabil Ummi, hein, donc il était au contraire vierge, le prophète vierge. Donc le sceau de la sainteté mohammedienne, c'est le saint qui est le plus vierge, en fait, de tout conditionnement, de toute particularité. Et c'est pour cela qu'il est le plus universel, et comme c'était pour cela que Mohammed était le prophète le plus universel, et ben c'est pour cela que ce saint-là est le saint qui marche sur les pas de Mohammed.
D'accord, mais c'est pas le dernier des saints. Il y a toujours existé cette question.
Alors c'est un autre point. En fait, lorsqu'on entend un sceau, il faut pas forcément entendre un sceau de manière historique, parce que ce sont des réalités spirituelles, et surtout ce sont des réalités spirituelles dans laquelle l'individualité n'a plus énormément de place. Donc c'est à dire que le sceau de la sainteté mohammedienne, c'est un état d'être et un niveau d'être, et ce n'est pas quelque chose qui est dans une individualité. Maintenant, est-ce que seulement il n'y a qu'une individualité ou l'autre qui a atteint ce niveau spirituel? Ça, c'est une autre question. Mais il ne faut pas confondre les deux. Et donc, dire qu'il y a un sceau de la sainteté mohammedienne et que, par exemple, Ibn Arabi ou d'autres, parce qu'il y a toute une question là-dessus, ont atteint ce niveau, ça ne veut pas dire que d'autres ne l'ont pas atteint. Tout simplement, on sait que dans le soufisme, beaucoup de grands saints ont dit qu'ils étaient le sceau, en fait, de le sceau de quelque chose, ou qu'ils étaient le... parce que justement, ils atteignaient un certain niveau. Mmh.
D'accord. Bah, écoute, Grégory, c'était vraiment, vraiment un vrai plaisir de partager ça avec toi. J'ai beaucoup appris, les auditeurs, auditrices. J'espère que vous avez aimé aussi. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'était trop court.
Bah oui,
on a bien aimé en parler encore 2 heures
C'est toujours mais, comme ça quand on, pas... quand on parle d'Imar Labi, on sait quand ça commence. Mais...
C'est vraiment super intéressant. J'espère que, qu'on pourra encore partager ça. Les auditeurs auditrices, toujours, je vous dis que c'est ça sera présent, disponible sur le site ardorient.com. Grégory, je te remercie beaucoup. Et je te dis à bientôt. Pourquoi à bientôt. Pas pour une autre,
oui,
une autre émission. Super. Les auditeurs, auditrices,
à très bientôt.
Merci.
Salam.